Pierre Danon, bonjour, c'est vous que nous recevions aujourd'hui. Vous êtes maintenant conseiller de Bruno Retailleau sur les questions économiques. Vous êtes aussi trésorier du DLR. Vous avez été très proche pendant un moment du travail effectué pour François Fillon, ce qui était extrêmement important. Nous avons d'un autre côté le professeur Olivier Gouin, que nos auditeurs commencent à connaître. Monsieur Danon, vous faites un travail extraordinaire sur les dossiers. Et je pense que les dossiers seront la partie la plus, j'allais dire, la plus noble, la plus importante des prochaines présidentielles. Vous avez commencé, et je vais vous interroger dessus, et vous allez nous expliquer le travail gagnant. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut faire?
Bon. D'abord, bonjour et merci,
bonjour,
merci de me recevoir.
C'est normal, ça.
Travail gagnant, ça part de deux constatations que Bruno Retailleau a fait il y a de nombreuses années, mais il nous a donné un bon de commande il y a à peu près un an, qui est de dire, la France ne travaille pas assez. Il y a un déficit de travail qui est considérable entre nous et nos voisins européens, je ne parle pas même d'autres pays. Et le deuxième point, c'est que le travail ne paye pas. Et on est dans un pays, on est la septième économie du monde, mais vous avez beaucoup de nos concitoyens qui peuvent avoir deux contrats, deux CDI dans une famille avec deux enfants et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et ça, dans la septième économie du monde, c'est pas normal. Et donc, on a choisi de s'attaquer à ce sujet-là en essayant d'en comprendre les racines du problème et de s'attaquer donc aux racines du problème.
Oui, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est le taux de productivité qui a baissé parce qu'on était un des plus hauts, non seulement en Europe, mais dans le monde. On est en train de baisser à toute vitesse. Qu'est-ce qui a favorisé? Alors, il y a les 35 heures, peut-être, mais il y a sûrement d'autres choses.
Alors, il y a deux choses. Hein. Le PIB, comme on dit, c'est
produit intérieur brut.
Le travail multiplié par la productivité. La productivité, c'est la valeur créée par une heure de travail.
Oui.
La productivité française a beaucoup baissé, notamment parce que nous nous sommes désindustrialisés. Nous avons choisi, il y a 40 ans, un modèle de développement qui est le mauvais, qui nous a appauvris, en basant notre croissance sur des services, sur de la consommation, qui est le plus souvent financée à crédit par de la dette. On a oublié que pour distribuer de la richesse, il faut déjà la créer.
Absolument.
C'est dans l'industrie que se génère la productivité. C'est pas, si vous voulez, Deliveroo, c'est un service extrêmement utile, mais la productivité de Deliveroo ne va pas beaucoup augmenter. C'est des gars à vélo qui nous distribuent. Voilà, on peut pas robotiser. Enfin, peut-être d'ailleurs qu'on robotisera un jour, mais enfin, pour l'instant, il n'en est pas question.
C'est pas ça du tout, oui.
Donc, ça, c'est la productivité. La quantité de travail, c'est dû, comme je crois vous l'avez un peu sous-entendu, c'est dû à quelques réformes fondamentales de la gauche que malheureusement pour nous, la droite n'a pas eu le courage de bloquer et de renverser. Ça démarre par la retraite à 60 ans, qui était une horreur absolue par rapport à la démographie. Et ça s'est continué par les 35 heures, qui a été vraiment le coup qui nous a le plus abîmé à court terme, en passant par le ministère du temps libre.
Oui.
En passant par le ministère du temps libre. C'est-à-dire que la gauche a développé cette idée que le travail, c'est pas bien. C'est un mal nécessaire. Moins on travaille, mieux on se porte. En indiquant à tout le monde, mais vous inquiétez pas, même si vous travaillez moins, vous gagnerez plus. Et ça, c'est évidemment faux. Et on le voit. Et ce qui fait que pour compenser cette bêtise, parce que c'est vraiment une bêtise, eh bien, on a fait des chèques, et comme on n'avait pas l'argent, eh bien, on a tiré sur de la dette, et aujourd'hui, on a 3 500 milliards de dettes.
Oui.
Et le modèle est arrivé au bout de sa course.
Je vous relancerai sur le travail gagnant, parce que, effectivement, c'est le plus important, mais il y a quand même le financement, il y a quand même tout le modèle financier qui fait qu'aujourd'hui, comme vous le dites, on s'endette. On a l'impression que les gens ne pensent pas au remboursement obligatoire de cette dette un jour ou l'autre. Or, cette dette, elle est en train... C'est pas la nôtre. C'est quelque chose qui vient d'à peu près partout. qu'on saura, on nous réclamera un jour. On n'est plus maître, on n'est plus souverain chez soi à cause de ça. Dans le temps, c'était facile. L'État émettait des bons. La Banque de France achetait les bons. Et c'était, on se devait l'argent, il n'y avait pas de frais, il n'y avait pas de ceci. Maintenant, il y a des intérêts qui partent hors dehors de France, etc. C'est ce système monétaire international qui nous manque. Et c'est la France qui est pas du tout, plus du tout dans le coup. Alors, je ne parlerai pas de l'euro, sauf si vous voulez m'en parler. Mais en définitive, on n'est pas plus maître de notre destin.
On est en danger, ce que les... De temps en temps, ce qui est sous-estimé, rappelez-vous, il y a encore quelques années, quand avec François Fillon, on parlait de la dette, les gens nous riaient au nez, nous disant « mais les taux d'intérêt sont à zéro, et puis de toute façon, cette dette ne sera jamais remboursée, endettons-nous, il n'y a pas de problème ». Aujourd'hui, on voit déjà que les taux d'intérêt, ils sont à 3,6, c'est-à-dire qu'on est déjà à 60-70 milliards de dépenses d'intérêt. Moi, j'ai fait beaucoup d'entreprises avec ce qu'on appelle de la dette, et c'est un collier étrangleur, c'est-à-dire que ça s'accélère. Là, la cavalcade a commencé. On intériera sur la tendance actuelle avec 100 milliards de dépenses d'intérêt. Il faut bien comprendre que si on a 100 milliards de dépenses d'intérêt, c'est autant qu'on ne peut pas dépenser en défense nationale, en éducation, etc. Et on est en train de s'enfoncer dans cette espèce de sable mouvant de la dette qui, un jour, nous fera mal. Et il faut bien voir que une difficulté supplémentaire, c'est que la dette de la France est beaucoup détenue à l'étranger.
À l'étranger, c'est ça le problème.
Les Japonais ont une dette encore plus importante que la nôtre, mais elle est détenue essentiellement par des Japonais. Donc il y a des réflexes un peu de patriotisme qui font que c'est un peu protecteur. Mais la dette française est détenue à plus de la moitié par des fonds étrangers, qui sont des fonds de pension.
Ça crée une dépendance.
Et ça crée une dépendance énorme. Et dans ma carrière, j'ai beaucoup travaillé avec ces gens-là. C'est des gens qui sont absolument charmants, très courtois, intelligents. Mais quand ils décident que la fête est finie, Et vous l'avez vu récemment. Qui est-ce qui a fait reculer Donald Trump dans ses actions un peu extravagantes?
Vous avez raison.
C'est justement les Chinois et un certain nombre d'autres pays qui ont commencé à vendre de la dette américaine. Et ça n'a pas duré très longtemps avant que Donald Trump recule. C'est le genre de danger qui nous guette. Alors, on est un peu protégé par le système européen, par l'euro, par nos partenaires. On vit à leur crochet, d'une certaine manière. Mais ça nous coûte déjà.
Oui.
Ça nous coûte déjà. Par exemple, pendant des années, nous n'avons pas réussi à imposer le fait que la stratégie nucléaire de la France était la bonne.
Tout à fait.
Eh bien, on était bloqué.
Absolument.
Et on était bloqué parce qu'on ne pouvait plus faire ce que le général de Gaulle avait fait, qui était de dire « Messieurs, vous m'ennuyez, je laisse ma chaise et vous me rappellerez quand vous aurez changé d'avis ». Nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on est en danger d'une procédure de déficit excessif.
Absolument.
Et évidemment, ce serait très douloureux. Donc, vous avez tout à fait raison. Je pense que les Français s'en rendent de plus en plus compte. On a un vrai, vrai sujet dangereux avec cette dette. Et ce que j'ai conseillé à Bruno Retailleau, c'est de dire, nous devons être, il doit être le président qui arrête la croissance de la dette. C'est pas possible de baisser la dette, malheureusement. Mais au moins, on peut arrêter la croissance de la dette, la stabiliser, et puis des successeurs entameront la décrue. Mais c'est fondamental, vous avez raison, monsieur Foucault.
On a, pour donner un chiffre quand même, parce que les gens, la dette, ça passe au-dessus de la tête, on remboursera pas, qu'est-ce que ça vaut? Lorsqu'on doit 3 300 milliards, 1% d'intérêt, c'est 33 milliards. C'est pas de la rigolade. C'est-à-dire que si on a 3% d'intérêt à payer, c'est 99 milliards. Et ça, c'est quand même 99 milliards, c'est plus de deux fois le budget de l'éducation nationale, etc.
Exactement.
On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout financer, on ne peut pas tout payer.
Surtout que, vous le sous-entendez, vous avez raison, on est déjà à un déficit de 5%.
C'est fou.
Et donc, on ne peut pas dire, j'ai 100 milliards d'intérêts, donc je vais dépenser 100 milliards de plus et monter mon déficit. On est au maximum du déficit. Donc ça veut dire que lorsqu'on a 100 milliards d'intérêts à payer, il y a 100 milliards de dépenses qu'on ne fera pas.
Absolument.
Et ça va devenir de plus en plus douloureux, notamment dans un environnement sur lequel, de manière certaine, il faut qu'on augmente nos dépenses de défense.
Oui. Et encore heureux que les critères de Maastricht ne soient pas respectés.
Ah oui, oui.
Parce que, alors là... Et en réalité, c'est largement l'euro qui permet aussi cette situation.
C'est ce que je disais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On en bénéficie, mais les choses n'auront qu'un temps. Nos partenaires européens commencent à être assez exaspérés de l'attitude de la France. Vous savez que on est un des seuls pays, voire peut-être même le seul, qui n'a jamais respecté ses engagements. Nous n'avons jamais respecté nos engagements. Quand on se retrouve dans un forum européen, les gens nous disent, nettoyez chez vous.
Vous êtes gentil, mais...
La commission est bien gentille et la Cour de justice n'est pas saisie.
Je voudrais signaler un autre fait aussi, parce que lorsqu'on parle d'endettement, on en parle par rapport au PIB. Mm-hmm. On rembourse un endettement avec le budget d'État, pas avec le PIB. Or, le budget de l'État, c'est environ 400 milliards, et vous rendez compte un petit peu ce que représente l'endettement par rapport au budget de l'État. Ce budget de l'État, en définitive, qui est à peu près de 400 milliards, il est déficitaire presque de moitié. Là, il y a un sacré boulot à faire.
Oui, vous avez raison, et le rapprocher les deux chiffres est très utile. N'oublions pas que le déficit actuel est pour au moins la moitié dû à l'excédent de nos dépenses sociales. La totalité des dépenses en France est de l'ordre de 1 700 milliards. Et dans ces 1 700 milliards, il y a les retraites, la santé, les dépenses sociales non contributives. C'est ces dépenses-là qui ont explosé dans les 30 dernières années. Et ça vient beaucoup de ces dépenses-là, la création des déficits. Il faut voir que, en fait, si vous voulez, vous avez vu, il y a eu des débats où... il y a beaucoup de rafistolage de la présentation des finances publiques pour éviter que la vue soit sur les dépenses sociales. Et on met souvent une vue sur le budget de l'État à 400 milliards. Il faut bien penser que c'est 1 700 milliards et que dans les 1 700 milliards, il y a une somme énorme sur les retraites, énorme, et que, Il faut regarder par cet angle-là aussi.
Excusez-moi. Parce que vous parlez des retraites, on va quand même mettre l'accent dessus. Les retraites, c'est véritablement un problème. Parce qu'on a habitué les Français à dire, vous savez, si vous partez à la retraite à 60 ans, pourquoi pas à 58 ans d'ailleurs, pour certains. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce problème de retraite et d'âge vient uniquement dû au vieillissement de la population. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait les caisses de retraite après la guerre, l'espérance de vie était entre 63 et 65 ans. Nous sommes à 83 ans aujourd'hui. Ce n'est plus les mêmes financements, plus les mêmes cotisations. Il va falloir un jour ou l'autre qu'on tranche. Il n'y a pas où on coupe les retraites. Il faudrait presque les couper en deux. Ou alors on travaille plus. Il va falloir faire un choix.
Vous avez là encore raison. En fait, si vous voulez... Il y a deux sujets. Il y a un sujet d'abord d'équilibre démographique. Disons, en 1945, quand les systèmes ont été conçus, on était à 4 actifs, 5 actifs pour un retraité. La charge était donc acceptable. Aujourd'hui, on est à 1,7 actifs. Et ça baisse de plus en plus suite à notre démographie.
Tout à fait.
Et donc, le système par répartition, il est en danger structurellement. Alors au début, on a augmenté les cotisations, etc. Puis au bout d'un moment, on arrive à la limite du jeu. Nous, on pense deux choses. On pense d'abord que il faut absolument ajouter un étage de retraite par capitalisation.
Oui, bien sûr.
C'est essentiel, c'est-à-dire qu'il y a un système de répartition, il y a un système très intelligent de retraite complémentaire, très bien géré par l'Agirc-Arrco, très très bien géré, mais il faut ajouter un étage de retraite par capitalisation. On ne dit pas qu'il faut remplacer, mais on dit qu'un étage de retraite par capitalisation très individuel...
Et encouragé,
etc. Et on a tout dans le document que vous avez, dans notre document, justement, Produire Plus, il y a une série de développements sur cette retraite par capitalisation. Maintenant, l'autre sujet, qui est aussi très important... et que vous, d'une certaine manière, il est en creux dans ce que vous dites, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui arrivent à 64 ans et qui sont en pleine forme.
Absolument.
Il y a beaucoup de gens qui, Des tas de raisons, veulent s'occuper de leurs petits-enfants, ou ils sont très fatigués après une carrière qui a été pénible, et donc eux souhaitent s'arrêter.
Absolument.
Mais le système français nous pousse à nous arrêter à 64 ans.
C'est fou.
Et c'est stupide.
Ah, complètement.
Il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont envie, et peut-être de temps en temps besoin financièrement. Et vous verrez que dans Travail Gagnant, la réforme essentielle que nous proposons pour les seniors, c'est de dire, quelqu'un qui arrive à 64 ans et qui a cotisé ses 43 annuités, nous, on considère qu'il a payé son dû et les entreprises qui l'emploient ont payé leur dû.
Absolument.
On lui doit une retraite.
On est d'accord.
Et ce qu'on dit maintenant, prends ta retraite, mais continue à travailler.
Absolument.
Et quand tu continues à travailler, tu ne payes plus de charges sociales et ton entreprise ne paye plus de cotisations. Donc, effectivement, de temps en temps, les gens se disent « Oh, moi, je préférais m'occuper de mes petits-enfants ou voyager, etc. » Mais quand vous dites aux gens « Non, mais attends, tu vas travailler sans cotisation sociale et tu vas travailler, ton employeur ne payera pas de cotisation sociale patronale. » Là, les gens peuvent se dire, et vous verrez dans le document, les gens peuvent se dire « Nous, on a calculé que quelqu'un qui gagne 2700, c'est-à-dire le salaire médian français, ça fait 2115 net. » Et qui se retrouve avec une retraite, mettons, de 2000 euros. C'est la retraite moyenne, hein, c'est à peu près. Donc, mon cas est un cas normal. Eh bien, cette personne, avec notre système, si elle travaillait 2 ans de plus, elle pourrait accumuler un pécule de 18 000 euros au bout de 2 ans net. Voilà.
Mmh.
Et donc, c'est l'idée, allez, si t'as le courage, si t'as l'envie, surtout, on te freine pas. Vous savez comment ils nous freinent? Ça, c'est des lois de la gauche. Ils nous freinent parce que, si vous arrivez à 64 ans, que vous avez vos annuités, vous travaillez dans une entreprise, vous entendez bien avec l'entreprise et tout, eh bien, vous êtes, si vous voulez continuer à travailler, la loi vous oblige à vous arrêter 6 mois. C'est-à-dire, on vous casse les pattes.
Ah oui.
Et évidemment, alors l'employeur lui dit, je l'ai perdu, le gars, il est parti, il est parti.
6 mois, il a plus envie de venir.
Voilà, ou le gars, au bout de 6 mois, il a fait autre chose. Nous, on dit, non, on abroge cette loi. Mmh. On abroge cette loi. Les gens qui veulent continuer à travailler, eh bien, ils continuent à travailler, ils n'ont plus de charges sociales. Les employeurs ne payent pas de cotisation. Ce qui veut dire que le coût du senior baisse de 35%.
Ça, c'est important.
Et ça veut dire que les seniors peuvent aussi flexer leur temps de travail.
Oui, ça peut pas forcément à plein de temps.
Voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison, monsieur le professeur. C'est-à-dire que vous pouvez dire, moi, j'ai mes petits-enfants à aller chercher le mercredi à l'école, je veux le faire. C'est un truc, je veux le faire. Et puis, j'ai des activités associatives, je veux le faire. Puis, je peux peut-être faire même du sport. Et tout. Donc, je fais un mi-temps.
Ouais,
ce qui veut dire que l'entreprise, elle se dit, tiens, j'ai un gars qui peut devenir un tuteur pour mes apprentis. Il va se mettre à mi-temps. Mais moi, j'économise 35% sur son coût du travail.
Ça change tout.
Et ça change tout. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est de dire aux Français, allez, travaillez un peu plus, ceux qui le veulent.
Oui.
Mais au total, ça va augmenter la quantité de travail et ça va augmenter notre richesse.
Et ça change aussi, le caractère du travail. C'est un travail de plaisir, un travail consenti, un travail volontaire.
Important.
C'est pas une punition.
Oui, important.
On est d'accord.
Je reviens un petit peu sur les cotisations sociales, sur le financement de la retraite, avec ce volet qui ferait un petit peu, c'est-à-dire capitalisation. Ça présente un autre avantage. C'est que la France n'est pas très, très lancée sur ce qui est action, obligation, etc. Ça les obligerait petit à petit prendre l'habitude d'investir,
ah oui.
Parce qu'on manque d'investissement, et ce serait quelque chose d'extrêmement important.
Vous avez tout à fait raison, et nos calculs qui valent ce qu'ils valent, mais bon, on dit que ce système de retraite par capitalisation qui serait obligatoire, ce serait pour tous les Français.
Bien sûr.
De manière, j'ai entendu des fois des gens qui me disent la retraite par capitalisation, c'est la retraite des riches. Mais
non, pas du tout.
C'est la retraite des gens qui veulent avoir une vraie retraite.
Tout à fait.
Mais nos calculs montrent qu'on arriverait probablement en 10 ans à amasser à peu près 1000 milliards. Et vous vous rendez compte? Et ces 1000 milliards qui pourraient s'investir dans l'économie française, dans l'industrie française, dans la recherche française, pas que française, mais en tout cas très largement française et européenne, et c'est ce qui manque à nos entreprises. Aujourd'hui, en France, quand vous avez même une belle start-up qui arrive et qui a, euh, qui arrive à un moment donné où elle veut lever, mettons, 20 millions d'euros, 30 millions d'euros, en France, c'est très difficile.
Donc la capitalisation pourrait être fléchée, en quelque sorte.
La capitalisation serait fléchée, c'est-à-dire que...
Et garantie.
Pas garantie. Mais vous savez, quand vous faites des systèmes de retraite par capitalisation sur 30 ans...
Oui, et puis par obligation.
Vous n'avez pas besoin de garantir.
Oui, et sur obligation, j'imagine.
Pardon ?
On a le choix du panier, on peut faire des...
C'est le fonds qui gère la retraite des gens, notamment Agirc-Arrco, qui peut choisir. Et en général, on fait un panier, comme vous dites, justement. Mais on peut faire un panier qui est nettement orienté vers l'économie française. Si vous jouez sur 30 ans, 40 ans, les taux... Vous savez combien c'est le taux d'appréciation des capitaux de la retraite par répartition ? Aujourd'hui, c'est 1% par an. Le taux moyen de à peu près tous les fonds de pension du monde, je ne parle pas des bons, je parle de fonds de pension très prudents, c'est entre 4 et 5%.
Mais ce n'est pas la même chose.
Amusez-vous, monsieur Fourcroy, à faire le calcul.
C'est
sur 20 ans,
ça fait beaucoup,
1% par an ou 4% par an, ben, ça change tout. Et c'est pour ça que les gens, et même les gens modestes, et je dirais surtout les gens modestes, doivent pouvoir accéder à cette capitalisation.
Il faut revoir quand même ce que disait le professeur Gohain sur la garantie. Tout dépend comment on va faire ce système, parce que moi qui ai vécu, j'ai travaillé dans la banque, qui ai vécu les grandes époques du gaullisme investisseur, on lançait des obligations. Les Français achetaient ça, ils se les arrachaient. Si on dit la vérité, on offrait 5% aux souscripteurs et l'inflation était des fois supérieure, mais enfin bon. Mais c'était marqué en dessous, garantie par l'État. Cette garantie par l'État, jamais besoin d'être exercée. Par contre, c'est elle qui confortait les Français. Parce que les Français, ils râlent contre l'État sans arrêt, mais ils ont confiance qu'en l'État. Il faut, d'abord, ce sera... à donner dans un programme quelconque, réapprendre à aimer l'État. L'État, c'est nous, c'est pas lui, c'est nous, l'État. Et ça, il faut le réapprendre. Donc, je voulais vous dire simplement pour cette histoire de financement, ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut aussi, c'est revoir et travailler sur un projet de système monétaire international, parce que vous vous rendez compte qu'il y a 15 jours, 3 semaines, les Chinois ont dévalué leur monnaie de 22%. Alors que leur économie ne permettait pas ça ou n'aurait pas dû l'indiquer. Les Américains, le dollar a perdu entre 13 et 15%. Qu'est-ce qu'on fait avec un euro fort? On ne peut plus vendre, on n'est plus compétitif, etc. Donc, il faut des règles, remettre des règles d'aplomb.
Bon, on est en train de travailler la question.
D'accord.
C'est une question qui est éminemment complexe, sur laquelle Moi, j'ai... Ma réaction, c'est toujours de regarder nous par rapport aux autres pays européens. Parce que les autres pays européens, ils ont l'euro comme nous. Et ils s'en tirent bien mieux que nous. Donc je me dis, commence par balayer chez toi.
Oui.
Parce que je ne voudrais pas que nos concitoyens se disent que le problème vient d'un euro trop fort. Ce n'est pas forcément faux. Ce que je voudrais, c'est qu'on se dise, commençons déjà, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire, commençons déjà par faire ce qui est nécessaire chez nous. Je vais prendre un exemple qui m'a vraiment frappé. En 1995, j'étais directeur général de Xerox en Hollande. Donc, j'ai vécu 2 ans à Amsterdam.
D'accord.
Et je me souviens qu'à l'époque, je regardais Amsterdam par rapport à Paris et je ne voyais pas une énorme différence, peut-être un peu plus riche que nous, mais pas beaucoup plus riche. J'y suis retourné le mois dernier parce que j'y installe mon fils qui a trouvé un job à Amsterdam. Et au bout d'une journée de déambulation, je n'en revenais pas, j'ai dit à mon épouse, mais regarde, cette ville exsude l'argent, exsude la prospérité. La prospérité est partout. J'ai fait ChatGPT et j'ai regardé la différence entre le PIB par habitant de la Hollande et le PIB par habitant de la France. Eh bien, tenez-vous, c'était 50% plus élevé. Les Hollandais, qui ne sont que 18 millions, qui n'ont aucune ressource naturelle, qui n'ont que leur intelligence et leur force de travail, eh bien, ils sont 50% plus riches que nous, alors qu'il y a 40 ans, ils étaient à peu près au même niveau. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, mais je peux le dire sur l'agriculture, sur l'agriculture, nous étions excédentaires de 12 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous sommes déficitaires de 500 millions, incroyable.
C'est fou.
Et encore, sans le vin, le déficit serait probablement de 3 à 4 milliards. Les pays européens qui nous entourent, ils étaient tous déficitaires en agriculture il y a 30 ans. Et aujourd'hui, ils sont super excédentaires.
Ils nous vendent.
Donc, mon message, c'est de dire, ne nous concentrons pas trop sur la faute à l'euro. Essayons avant tout de remettre de l'ordre dans notre maison. Et puis, ça ne nous empêchera pas de discuter avec nos collègues européens de ce qu'il faut faire en politique européenne monétaire.
Il y a aussi la question de la fiscalité, qui est très importante. Parce que nous sommes quand même surfiscalisés.
On est les champions d'Europe de la fiscalité.
Oui, ça, donc autrement dit, il faut aussi laisser de l'argent aux gens.
Oui, oui, oui.
Et pour qu'ils fassent leurs placements, leurs épargnes.
Alors vous verrez que dans notre projet, là, vous avez vu sans doute M. Foucault, on s'approche vraiment. En France, le problème essentiel de fiscalité, et c'est quand même la fiscalité qui pèse sur les entreprises, hein.
Ouais.
Faut pas se leurrer. Quand on compare la fiscalité des ménages par rapport à l'Angleterre, la Belgique, le machin, bon, à part sur les aspects de patrimoine. Sur lesquels la France est beaucoup plus dure que la plupart des autres pays, mais sur l'impôt sur le revenu, c'est en gros équivalent. Mais vous avez vu que dans le document que je vous ai montré, notre estimation du surcoût des prélèvements obligatoires sur les entreprises françaises, c'est 100 milliards par an.
Vous intégrez la question des charges sociales aussi.
C'est charges sociales et impôts de production. Et impôts de production, parce que sur l'impôt sur les sociétés.
Sur les
bon, bien sûr, notre impôt est plus élevé que celui de l'Irlande, mais c'est pas forcément le problème numéro un. Ce qui gêne mes compatriotes entrepreneurs, c'est ce qui se passe avant le profit. Quand on fait du profit, qu'on paye un impôt, en fait, ça ne choque pas, sauf évidemment ce que le gouvernement a fait sur la taxe sur les grandes entreprises, etc., qui est vraiment pas normal. Mais ce qui choque mes compatriotes entrepreneurs, petits ou grands, hein, même des TPE, c'est cette idée que, eh ben, avant même d'avoir fait le plus petit début d'un profit, vous devez payer la C3S, la CVAE, la CFE...
Les cotisations sociales qui sont
presque des fixes par rapport à vous avez vos salariés, boum, vous avez un certain nombre de cotisations sociales. Donc, nous, on propose, on pense que c'est un des vrais problèmes de la France, hein, et on propose de baisser ces prélèvements obligatoires dès le mois de septembre, si Bruno est élu président de la République en mai. Dès le mois de septembre, dans une loi de finances rectificative, on propose d'enlever 40 milliards d'un coup. Et le document explique bien comment le financer.
Nous avons une proposition, je peux faire une proposition. Je travaille dessus depuis un moment, mais c'est en définitive, ce sont les charges sociales. Aujourd'hui, un entrepreneur paye ses charges sociales, production faite, vendue ou pas vendue. Donc c'est quand même une charge qu'il a à faire. Si on enlevait les charges sociales du monde du travail pour les porter sur le monde de la consommation, c'est-à-dire produits vendus, paye sa TVA, ce qu'on appelle la TVA sociale, même si le mot n'est pas bien choisi, mais ce serait quand même quelque chose de plus normal, me semble-t-il. Ouais.
Alors, dans le principe, vous avez tout à fait raison. Dans ce qu'on appelle travail gagnant, vous savez, on a deux grands programmes économiques, travail gagnant et produire plus. Hein, c'est nos deux programmes. Dans travail gagnant, on fait quelque chose qui est assez profond. On fait un certain nombre d'économies. C'est ce que Bruno Retailleau dit souvent, je veux aider les travailleurs et, réduire le niveau de profiteurs. Hein, travailleurs versus profiteurs. Nous, on assume ce choix. Hein. Et donc, au niveau de ce qu'on appelle les charges sociales, les prestations sociales non contributives,
oui.
C'est-à-dire celles qui sont le RSA, la prime d'activité et les indemnités de chômage, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est que on remet pas en question le système social français. Il est très bon et on l'a. Mais on remet en cause ses dérives.
Tout à fait.
C'est le fait que quelqu'un... Moi, j'ai trouvé, par exemple, on a fait des cas. On a trouvé, c'est un cas fictif, mais réel, en sens qu'on a trouvé une mère de famille à Tours qui a deux enfants. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que cette personne peut aller chercher comme aide au total? Et on a trouvé, tenez-vous bien, 1 950 €. 1 950 € net. Parce que bien sûr, il y a le RSA, éventuellement la prime d'activité, les APL, les allocations familiales. Mais en plus, vous avez tout ce qu'on appelle les coups de pouce.
Mais oui.
Les gratuités, les... Oui. Au total, cette personne, et c'est un cas réel en sens qu'on n'a pris que des aides qui existent, c'est 1 950. Il ne faut pas s'étonner si un certain nombre de nos concitoyens se disent, bon bah après tout, mais 1 950 € net, oui, à Tours, j'ai deux enfants, bah et bon, j'ai pas forcément un énorme besoin de travailler. Donc nous, ce qu'on a inventé, c'est le compte social unique. C'est de dire, on va,
très bien,
non pas une allocation sociale, oui, c'est ce que veut faire le gouvernement, et c'est une bêtise. C'est-à-dire que si vous mettez les 3-4 associations principales ensemble, si vous les fusionnez, vous allez créer un monstre. Ça va prendre des années, et d'ailleurs, vous allez aligner tout le monde
vers le haut.
Vers le haut. Ça, c'est ce qu'on fait en France, on est les champions du monde de faire ça. Et c'est pour ça que le ministre a déjà annoncé la couleur. C'est au moins 1,5 milliard de dépenses. Nous, ce qu'on dit, non, c'est pas ça qu'on va faire. On va répertorier, vous avez un revenu fiscal de référence. Bon, vous savez, l'État, c'est ce que vous gagnez. Eh bien, l'État n'est pas loin de savoir toutes les allocations sociales que vous percevez.
Bien sûr.
Et ce qu'on dit, c'est qu'on va créer un compte social dans lequel on aura une visibilité sur ce que les Français ont. Et là, on écrêtera à 70% du SMIC.
On a une chance de s'en sortir.
Et là, on s'est... Et ça fait un certain nombre d'économies. J'en ai d'autres, mais je suis sur là-dessus. Au total, dans le travail gagnant, il y a 30 milliards d'économies. 30 milliards d'économies de dépenses sociales, qui sont des dérives du système. C'est pas le système, c'est les dérives du système. Et ce qu'on dit, c'est que nous allons supprimer 30 milliards de cotisations sociales patronales dès septembre.
C'est bien.
Dès
ça.
Septembre.
C'est bien.
Donc, si vous voulez, ça touche à ce que vous dites. Et ces cotisations, celles qu'on veut supprimer, c'est dit dans le document, ce sont celles qui sont non contributives, parce que les Français comprennent très bien. Je paye mes allocations chômage, bah oui. Si je tombe au chômage, j'aurai une protection. Je paye pour mes dépenses de santé, bah oui. Si je tombe malade, je serai remboursé. Je paye pour ma retraite, bah oui. Quand j'aurai ma retraite, j'aurai une retraite.
Oui.
Mais il y a des tas de cotisations sociales qui financent d'autres choses.
Tout à fait.
Et nous, on veut réduire ça. Donc c'est un peu ce que vous dites. Et on l'a bien travaillé. Et nous, on le gage non pas sur de la TVA,
non, c'est mal
on
choisi.
Le gage sur des économies,
oui, c'est mal
de fonctionnement.
C'est très, très mal choisi. J'en avais discuté un jour avec Henri Guénaud et sous Sarkozy, ils avaient tenté TVA sociale, mais ils avaient ajouté de la TVA à la TVA. Ça n'avait pas fonctionné.
Oui, politiquement, c'est très difficile à faire passer.
Très mauvais.
D'ailleurs, la gauche s'était engouffrée dans le terme non, TVA sociale.
Je vais quand même faire une remarque, là, si vous m'y autorisez.
Vous êtes pour ça.
Si je vous demande quel est le taux de TVA en France, vous allez probablement me répondre 20. Probablement. Si je vous dis, non, mais attention, donne-moi le taux de TVA moyen. Parce que tu sais bien qu'il y a des taux réduits,
oui,
etc. Donne-moi le taux de TVA moyen.
Ah.
Alors, je ne veux pas vous coincer, M. Foucault, mais moi, quand on m'a fait le test, j'ai chuté.
Oui.
J'ai dit 13.
Oui.
Ça me paraissait raisonnable. Vous savez combien c'est en France?
Non.
C'est 9,7.
Voilà.
C'est 9,7. Vous savez combien c'est en Europe?
Non.
En moyenne, 12,7. L'Europe taxe la consommation de 3 points au-dessus de la France. Mais nous, en échange, on a des super impôts de production.
Ben oui.
Donc nous, on taxe la production et l'Europe taxe la consommation. Donc il faut, y réfléchissons beaucoup. Il y a un sujet de réflexion là-dessus.
Oui, sachant que dans cette affaire-là, il y a l'Europe. Et qu'on ne fait pas ce qu'on veut.
On ne fait pas tout à fait, mais on a de la marge.
On a
des marges de manœuvre. Vous savez, il y a des marges de manœuvre. Donc c'est un sujet, l'équilibre vertueux entre taxer la production et taxer la consommation est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup.
Tant mieux, parce que c'est la solution. Enfin, c'est la plus belle des solutions. Maintenant, on a un problème, quand on veut, on sait produire. On sait beaucoup moins se protéger. C'est-à-dire que les frontières, les brevets, les ceci, les Français sont pas très très ardents sur ces choses-là. Et puis il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours gêné, c'est qu'en France, on sait faire, on sait pas vendre. Et que lorsque vous regardez un type comme Trump se fait élire président des États-Unis parce qu'il sait vendre quelque chose. Après, bon, c'est autre chose. Mais nous ne savons pas vendre. Nous ne savons pas nous vendre ni vendre nos productions.
Le Foucrot.
Vous n'êtes pas d'accord.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que je vois autour de moi beaucoup de grandes entreprises ou de TPE, de PME, qui sont absolument remarquables. Nous, on pense que le problème numéro un de nos entreprises, c'est la réglementation. La sur-réglementation.
Complexité.
C'est ça, la complexité, et puis les interdits.
Tout à fait.
Les interdits. Et donc, dans notre projet, alors il y a beaucoup de gens qui travaillent pour moi qui m'avaient dit, Pierre, faut que tu lances un programme de simplification. Et moi, j'ai dit, écoute, moi, je commence à connaître mon pays au bout de 70 ans. Dès qu'on parle de simplification, ça ne marche pas. On ne sait pas simplifier en France. On dit, alors, on va simplifier le code du travail. On y revient 2 ans après, il y a eu des commissaires, on en a rajouté. Donc, en fait, ça ne marche pas. Donc, vous verrez que notre projet à nous, c'est de déréglementer. Modèle Milley. C'est-à-dire que, pour nous, ce qui est important, c'est d'enlever des règlements. Et par exemple, je vais prendre... Donc, dans notre projet, on a déjà identifié 50 règlements qui sont plutôt inutiles, à notre avis,
oui,
et qu'on veut faire disparaître par ordonnance dès l'élection de Bruno Rodin. Je vais vous prendre un exemple, parce qu'il m'a vraiment frappé. Je visitais les entreprises des PME de Moselle. Et un gars qui me dit, vous savez, monsieur Danon, moi, j'ai 20 extincteurs dans mon entreprise. C'est des extincteurs que j'avais achetés il y a 1 an et demi. Ils sont en parfait état. Mais, la France vient de pondre un nouveau règlement sur les extincteurs doivent être comme ci, comme ça. Je suis sûr que le règlement est excellent, enfin, je ne le juge même pas. Je le juge même pas. Et il me dit, bon, moi, j'avais compris que, au moment où je remplacerais mes extincteurs, on m'obligerait à acheter les nouveaux, aux normes. Il me dit ça, je suis d'accord. Ah non, non, non. On m'oblige à changer tout de suite mes 20 extincteurs. Hein, c'est ça qu'on veut enlever. C'est ce genre de règlement qu'on peut enlever. Et donc, j'en ai 50 déjà qui sont identifiés. Par exemple, un truc incroyable. La banque de données économique, sociale et environnementale. C'est un document qui est bien épais, qu'on demande à toutes les entreprises de produire. Alors bon, si vous êtes Saint-Gobain, si vous êtes Total, vous avez des DRH, vous produisez ça, vous savez faire. Mais si vous êtes une PME de la Moselle, qui a 50 employés, ou 80 employés, ce que j'ai découvert, c'est que l'Europe impose le BDESE à toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Ah ben nous, on est plus malin que les autres. Nous, on a décidé que c'était toutes les entreprises de plus de 50 employés. Voilà un règlement qu'on va faire sauter tout de suite. Dès qu'on arrive, on s'aligne sur l'Europe. 250, ça paraît très raisonnable.
Bien sûr.
Je ne vois pas pourquoi on obligerait les entreprises françaises à être mieux-disantes. La France, dans les 40 dernières années, on a été mieux-disant en matière de réglementation sur tous les sujets. Tous les sujets sans exception. Je ne sais pas pourquoi, c'est une genre de folie qui nous a pris. Et nous, avec Bruno Retailleau, on dit qu'il faut déréglementer et revenir au niveau européen. Bon, le niveau européen, on peut déjà le discuter, il est souvent très excessif.
Oui.
Mais au moins, n'en rajoute pas. Je vais prendre un autre exemple. L'acétamipride. L'acétamipride, le truc, la loi du plomb, là, pour les noisetiers et les betteraves, cette molécule est permise dans tous les pays d'Europe. Pourquoi est-ce que chez nous, elle est interdite ? En vertu de quoi ? Pourquoi on est plus intelligent que les autres ?
Il y a une pression des écologistes.
Bien sûr, mais scientifiquement, absolument pas fondée. Le résultat, c'est que nous, on produisait plein de noisettes.
Mais...
Toutes les noisettes qui arrivent en France maintenant, elles viennent d'Italie. C'est vraiment pas malin. Et c'est ce genre de réglementation auquel on veut vraiment s'attaquer de manière assez décisive, tout de suite, en déréglementant, pour permettre à nos agriculteurs, à nos entreprises, d'être un peu plus libres. Mmh. On croit beaucoup, M. Foucrot, que nos problèmes viennent à la fois d'un excès de réglementation et d'un excès de prélèvement obligatoire.
Oui, c'est vrai.
Et que si on libère les deux, on va déjà se donner un énorme respiration, couplé avec, couplé avec l'augmentation du pouvoir d'achat. Parce que notre programme Travail Gagnant, mine de rien, qui coûte zéro pour les finances publiques et qui rapporte 35 milliards d'économies de charges sociales aux entreprises, ça donne pour un salarié, moi ma référence est toujours le salarié, je vous l'ai dit là, à 2007, c'est le salaire médian qui a 2115 net. Eh bien ce salarié, dans notre sujet, en travaillant 2 jours de plus par an et 2 heures de plus par semaine, pas dire que ça soit vraiment terrorisant,
non.
Eh bien il a en fin d'année 3 800 euros net de plus. C'est-à-dire presque 2 mois de rémunération. Presque un 13e et un 14e mois. Donc, vous voyez, le cocktail, c'est libérer les entreprises, alléger les prélèvements obligatoires, remettre tout le monde au travail. Mais la magie de ça, c'est que tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne.
Vous avez envisagé la question de la protection, qui me paraît aussi importante. Parce qu'après tout, quand on a créé le marché commun, l'idée, c'était une liberté à l'intérieur et une protection contre l'extérieur. Or là, je crois qu'il y a des trous dans la raquette.
Alors, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à Bruno. Vous avez vu d'ailleurs que sur des sujets comme le Mercosur, on a pris des positions assez carrées. Bruno, ce qu'il dit, c'est en fait un peu ce que vous dites, monsieur le professeur. C'est-à-dire que depuis 40 ans, peut-être même 50, l'Europe a créé une genre de mâchoire. D'un côté, on a ouvert à tout vent.
C'est tout à fait ça.
Et de l'autre côté, on a réglementé à tout vent.
Absolument.
Il faudrait presque faire le contraire. Pour être efficace. Donc nous, ce qu'on dit, c'est déjà, première chose, il faut déréglementer chez nous, sûr. Mais après, une fois qu'on a déréglementé, si on considère que du bœuf aux hormones, c'est pas un bon bœuf, eh bien, on ne doit pas se laisser faire.
Tout à fait.
Et il ne faut pas qu'il y ait du bœuf aux hormones qui rentre chez nous sans qu'on l'ait accepté. Et vous avez une proposition d'un de nos députés, Antoine Vermorel, qui est assez intéressante, que j'ai reprise dans le programme parce que je la trouvais vraiment bonne. Antoine, il a regardé les douanes. Bon. Et il dit, vous savez qu'on contrôle 0,1% ou 0,2% de ce qui arrive en France. Hein. On ne contrôle plus rien du tout.
Rien.
On a essayé, même Amélie de Montchalin est allée courageusement, elle est allée à Roissy, elle voulait mettre un coup de pression des douanes. Vous savez, il y a plusieurs dizaines de 747 qui arrivent tous les jours de Chine, tous les jours, plusieurs dizaines de 747. Vous savez ce qu'ils ont fait les Chinois? Quand ils ont appris qu'Amélie de Montchalin faisait ses contrôles à Roissy,
il va à Bruxelles.
Ils ont dérouté les avions en vol.
C'est dingue.
Pour les envoyer à Liège.
C'est fou.
Et donc, évidemment, à Liège, bon, il y a moins de contrôle, et puis c'est rentré. Une fois que c'est rentré, c'est chez nous tout de suite. Donc, ce que Antoine Vermorel, notre député, dit, c'est ça ne suffit pas. Les douanes, je ne dis pas qu'il faut arrêter, mais ça ne suffit pas. Lui, il dit qu'il faut faire des contrôles au point de vente. Et il faut faire des contrôles au point de vente en remontant à l'importateur et en sanctionnant l'importateur. Alors, vous allez me dire, contrôle au point de vente, comment vous allez faire, avec quelles ressources? Ah oui, mais nous, en France, on est quand même les champions du contrôle.
Oui.
Sauf qu'on contrôle nos entreprises.
C'est tout.
Donc, l'idée de Vermorel, que j'ai trouvée brillante, c'est de dire, on garde nos effectifs de contrôle, les mêmes qu'aujourd'hui, mais on leur impose 50% intérieur, c'est-à-dire sur nos entreprises, nos agriculteurs, 50%
sur l'extérieur.
Importation. Et je pense qu'on devrait arriver à avoir quelques résultats, ne serait-ce que symboliques. Donc ça, c'est ce sujet de la protection auquel on est très attaché.
Dans le travail gagnant, on saute tout de suite au produire plus. Produire plus, il faut faire tout ce que vous venez de nous dire, mais il faut que nos entreprises... Il y a le problème, on revient sur le problème du financement. On a trop longtemps financé les entreprises canards boiteux, vieilles, etc. Et pas faire trop confiance aux nouvelles start-up, etc. Ce serait peut-être bon aussi que l'on voit le financement autrement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, mais on est d'accord, vous savez, j'ai fait ça toute ma vie, donc pas, je suis tout à fait aligné avec vous. Disons qu'en France, le financement des startups, et j'en ai financé pas mal, au début, quand il faut mettre, je sais pas, 100 000 euros, 200 000 euros pour démarrer une startup, et même après, quand il y a ce qu'on appelle un premier tour, où il faut mettre, trouver des gens qui vont mettre à eux tous 1 million, 2 millions, ou des petits fonds de venture capital qui vont mettre 1 million, 2 millions, ça marche très bien en France. On y arrive pas mal, au moins aussi bien que les autres pays. Notre problème, c'est quand la start-up a bien marché et qu'elle tombe dans ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire là, c'est pas 2 millions qu'il faut trouver, c'est 10 millions, 20 millions. En biotech, c'est 50 millions qu'il faut trouver. Et là, c'est difficile. Et c'est pour ça que nous disons, la retraite par capitalisation devrait aider à créer des genres de fonds de pension français qui viendront financer la croissance de l'industrie française.
Produire plus. Racontez-nous un petit peu quelles sont les grandes lignes, en fait. Oh, excusez-moi. Je vous demande 2 minutes aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Les gagnants, j'ai d'autres choses.
Monsieur Danon, on continue avec le travail gagnant parce que c'est quand même la base de tout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un éventail énorme.
Alors, moi je trouve que c'est la mère des réformes, hein. C'est ce qui concerne nos concitoyens. Donc, je vous ai parlé de ce qu'on fait pour les seniors, je vous ai parlé du compte social unique, je voudrais parler de deux autres réformes qui sont vraiment fondamentales. La plus importante, quand Bruno m'a confié les rênes du programme économique, il m'a dit « le sujet central, c'est les 35 heures, il faut que tu nous trouves en souplesse un moyen d'en sortir par le haut.
Oui. »
C'est-à-dire que tout le monde puisse être content. Bon, c'était une équation pas forcément facile à trouver, on a beaucoup, beaucoup travaillé. En fait, on est arrivé à l'idée, c'est une idée très profonde en économie. Quand tu as payé ton dû à l'État, tu as payé ton dû. Et à partir de ce moment-là, tu travailles pour toi. C'est quelque chose qui est paraît du bon sens, mais ce n'est pas ce qu'on applique aujourd'hui.
Tout à fait.
Donc nous, on a dit, voilà, on va mettre une limite à partir de laquelle on considère que les travailleurs, les salariés, mais aussi les entreprises, ont payé leur dû en matière de cotisation sociale. À partir de là, il n'y a plus de cotisation sociale, ni pour l'employeur, Et notre choix s'est porté sur 1623 heures. Donc on dit que c'est une durée, elle est annualisée. Avec Bruno Retailleau, on ne veut plus s'occuper de comment gérer ça. C'est les accords collectifs, c'est la négociation paritaire.
Très bien.
Du moment, l'État dit, à partir de 1623, les amis, vous ne payez plus de cotisations sociales, ni patronales, ni salariales.
Et pourquoi ce chiffre bizarre?
Alors pourquoi ce chiffre bizarre? pour l'équilibre des finances publiques, c'est en fait, j'aurais pu prendre 1607. 1607, c'est 35 heures.
Ah ouais.
J'ai pris 1623, c'est-à-dire 16 heures de plus, c'est-à-dire 2 jours travaillés de plus, parce qu'il fallait que j'équilibre les finances publiques. Parce que nous, on considère avec mon équipe qu'on ne peut pas creuser le déficit. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait doit s'équilibrer. Et donc, il y a aujourd'hui des rentrées fiscales, des heures supplémentaires au-delà de 1607, je les perds, puisque je fais. Et donc, il fallait que je les équilibre.
Ah oui, c'est hors cotisation sociale et hors fiscalisation aussi.
Ah ouais.
Il n'y a pas d'impôt sur le revenu.
J'aime bien les trucs simples.
Ah oui, oui.
Donc, si vous voulez, à partir de 1600, vous travaillez 2 jours de plus. Alors, c'est pas les 2 jours de François Bayrou. Parce que les 2 jours de François Bayrou, je les comparais bien volontiers à la corvée seigneuriale.
Oui, oui,
tu montes au château et tu travailles pendant 2 jours pour rien.
Il y avait la corvée de coassage.
Voilà. Nous, ce qu'on dit, il y a 2 jours de travail en plus qui sont payés.
Oui.
Et à partir de 1623, il n'y a plus de cotisations sociales. Ce qui est très important, c'est que la raison pour laquelle les heures supplémentaires en France, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup, c'est parce que les employeurs ne peuvent pas en donner. Et pourquoi ils ne peuvent pas en donner? J'ai trouvé la réponse avec mon ami François Asselin, qui est l'ancien patron de la CPME et qui a surtout une entreprise de menuiserie, et qui me dit, mais Pierre, moi je les contingente, les services supplémentaires. Déjà avec mon coût moyen, je ne suis pas compétitif. Tu me les fais payer 25% de plus. Bah, évidemment, j'en donne le moins possible.
Mais bien sûr.
Donc à partir du moment où on enlève toutes les charges sociales patronales, on enlève 35%.
Tout à fait.
Et nous, on dit le taux de la majoration horaire, c'est la négociation collective. Il y a des entreprises qui peuvent faire une majoration horaire, bah, tant mieux pour tout le monde. Il y a des entreprises qui sont beaucoup plus tendues, qui vont peut-être dire bah, non, c'est pas 25%, c'est 5%, enfin, etc. Mais l'idée, c'est de dire on libère. Et c'est là que notre calcul, on a pris 2 heures supplémentaires par semaine, hein, ce qui est vraiment, franchement, et c'est ça qui me donne les 3 800 € net de plus à la fin de l'année. Personne n'a jamais proposé ça, hein. Personne n'a jamais proposé 3 800 € pour chacun des 20 millions de salariés. Je le normalise sur ceux du salaire médian. 3 800 € net, le tout pour 2 jours de plus et 2 heures par semaine. Et en plus, ça fait une baisse des charges sociales de l'entreprise. Donc on allie plus de pouvoir d'achat, plus de compétitivité et un équilibre des finances publiques. Et quand vous calculez, M. Fougon, quand vous calculez 2 heures par semaine de plus, c'est assez facile de calculer, comme on disait au début de l'émission, le PIB.
Tout à fait.
C'est 2% de croissance.
Ah oui,
2% de croissance. Vous vous rendez compte que quand on voit là qu'on est là en train de tourner péniblement 0,7, 0,8, ah non, ça va être 0,9 ou 0,8, là, il y a un potentiel de 2%. Notre message, c'est de dire, allez, on se retrousse tous les manches et on en bénéficie tous. Parce que, en fait, ce que la gauche a oublié, et la droite a eu tort de le laisser passer, c'est qu'un principe fondamental de l'économie, c'est que pour partager de la richesse, il faut la créer.
Il faut la créer.
Et donc, nous, on dit, bien sûr qu'on va la partager, mais créons-la. Et vous voyez, l'effet est immédiat. Tout en fait, c'est pas... Notre modèle, c'est le général de Gaulle et le plan Armand-Rueff de 1958. La situation de la France n'était pas folichonne.
Non, pas du tout.
Les mesures du général étaient plutôt courageuses. Et le général nous a mis sur une croissance de 7-8% par an pendant 15 ans.
Tout à fait.
Ça prouve que, et c'est ce que certains pays comme l'Espagne ou le Portugal ou même la Grèce ont fait. C'est pas si compliqué, ça fait pas si mal que ça.
J'ajoute
et c'est ça notre idée.
J'ajoute que ça valorise le travail et ça encourage la liberté individuelle. C'est très important.
Et c'est toujours sur un principe de liberté. Parce que si vous voulez pas prendre d'heures supplémentaires, eh ben vous en prenez pas.
C'est ça.
Vous faites votre choix.
Oui.
C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un choix qui consiste à dire... Ben, moi, mon salaire de base me suffit largement, je n'ai pas de besoins supplémentaires. Moi, je respecte éminemment ça. Mais ce que je voudrais, c'est que si quelqu'un se dit, ben non, moi j'aimerais bien gagner un peu plus parce qu'il faut que je fasse des travaux dans ma maison ou il faut que j'ai un nouvel enfant, il faut que je refasse la chambre ou que j'achète un peu de mobilier, etc. Eh ben, se dire, eh ben, je bosse un peu plus et je vais avoir le supplément. Parce que quelqu'un qui a 2700, c'est ce que je faisais quand j'étais chez Numéricap, quand j'étais président de la République. Vous regardez quelqu'un qui a 2700, ça fait déjà 2100. Vous enlevez les dépenses obligatoires.
Oui.
Le loyer, le machin, les trucs.
C'est pas grand-chose.
Vous apercevez que ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est pas des tonnes d'argent.
Non, non.
C'est pour ça que les gens sont traîtres. 3 800 € de plus, ça change la vie des gens.
Complètement.
Et ce qu'on veut leur dire, c'est eh ben, un petit effort et vous allez changer votre vie.
Lorsque... On veut, effectivement, pour produire plus, il faut, vous avez parlé des charges sociales, à diminuer, etc. Il y a quelque chose qui est en train de monter en puissance actuellement, c'est le prix d'électricité quand même. Alors, que faire dans cette histoire de prix d'électricité? Parce que, effectivement, c'est complètement ridicule. Les Allemands se sont trompés en supprimant le nucléaire et, malheureusement, on les a suivis un petit peu. Maintenant, il faut remettre les choses à plomb. Qu'est-ce que vous en pensez?
Déjà, nous, on est d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on avait un bijou qui nous vient du général de Gaulle et de Georges Pompidou. On avait un bijou qui s'appelait le nucléaire. Et pour des raisons idéologiques, les écologistes qui se sont fait les alliés des Allemands, qui eux ne sont pas bêtes, et nous ont vraiment abîmé notre nucléaire. Vous vous souvenez, hein, Hollande avait fait une loi où on fermait 14 réacteurs Et le président de la République, Emmanuel Macron, a fermé Fessenheim, qui était en parfait état de marche.
Tout à fait.
En parfait état de marche. Donc ça, c'est assez criminel. Encore plus criminel, il a arrêté le programme Astrid, qui était un programme de réacteurs à neutrons rapides sur lesquels la France était en avance sur le monde, et sur lequel ça consomme tout l'uranium, au lieu de consommer qu'une toute petite partie de l'uranium. Bon, enfin, beaucoup de bêtises. Quand vous regardez l'évolution du prix de l'électricité dans les, disons, prenons les 20 dernières années, la hausse des prix de l'électricité, qui est catastrophique, est due un petit peu au prix du gaz et énormément aux subventions aux renouvelables intermittents. Les éoliennes, à aujourd'hui, et le solaire, nous coûtent 8 milliards par an, payés sur la facture.
Oui.
Parce que l'État a bien compris... J'ai repéré maintenant que je m'occupe beaucoup de finances publiques, nos fonctionnaires de Bercy sont des esthètes pour cacher l'argent sous le tapis et éviter que ça se voit. Donc ils font les certificats d'économie d'énergie, les machins, le truc. Les Français ne savent pas, mais ils payent. Ils payent. En fait, c'est très discutable d'avoir fait ça. Pourquoi ? Il y a un principe fondamental. Il faut une énergie qui soit abondante, bon marché et pilotable.
Et pilotable.
Et permanente.
C'est ce que j'appelle pilotable. Oui. C'est-à-dire que, en général, il y a une pique de consommation qui intervient dans le mois de février, un soir de février. Ça a dû intervenir cette année parce qu'il a fait un peu froid, avec la neige et tout ça. À ce moment-là, vous ne pouvez pas être dépendant des renouvelables intermittents pour votre électricité. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'hydraulique, qui, elle, est pilotable, et le nucléaire.
Et qui est en France.
Voilà. Mais à partir du moment où j'ai couvert mon pic de production avec du nucléaire et de l'hydraulique, pourquoi j'ai besoin d'autre chose ? Pourquoi j'ai besoin d'autre chose ? Donc, de toute façon, c'était un sujet vraiment mal né.
Idéologique.
On l'a fait.
Oui.
Mais nous, maintenant, ce qu'on dit, c'est on arrête.
Oui.
Ça fait 20 ans qu'on fait ça.
Oui.
Les marchés sont à maturité, les marchés éoliens, solaires. Si les gens veulent en faire, ils en font. Mais ce n'est pas l'État qui va subventionner et le mettre sur les taxes. Donc, la première des choses, c'est on respecte les contrats, donc c'est des contrats qui existent. Oui. Mais l'avantage, c'est que dans le prochain quinquennat, ils viennent tous à échéance. Et donc, nous, on dit, on ne les renouvelle pas à ce moment-là. Si les gens veulent vendre leur production à EDF, ils ont le droit, mais ils la vendent au prix du marché. Ils ne sont pas subventionnés. Et la deuxième des choses, c'est que nos centrales nucléaires, elles étaient... Au début, on est parti sur des durées de vie de 40 ans. Maintenant, on est sur des durées de vie de 60 ans. Mais nous, on dit... Il n'y a aucune raison de ne pas aller jusqu'à 80 ans, sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. On ne fait pas de bêtises.
Oui.
Mais vous vous rendez compte, M. Foucault, si vous amortissez vos centrales sur 80 ans au lieu de 60 ans, vous faites baisser votre coût moyen. Donc, changer la durée de vie, arrêter les subventions aux renouvelables intermittents et faire tourner le nucléaire à plein.
À plein.
Parce que quand notre nucléaire français, il peut produire au moins 400 TWh, au moins, peut-être même 420-430. Quand on a commencé notre changement de stratégie, on était descendu à 350-360. On est déjà à 400, c'est magnifique, c'est très bien géré par EDF. Nous, on dit, il faut continuer, et donc ça veut dire qu'il faut se poser des questions de, par exemple, de priorité. Parce qu'aujourd'hui, le courant arrive, il y a les renouvelables qui produisent. Ah, il faut les intégrer tout de suite. Ah ben, on arrête le nucléaire. C'est ce qu'on appelle la modulation. C'est catastrophique. Ça abîme les centrales, ça monte le coût du nucléaire. Donc nous, on dit que ces sujets-là doivent être traités, et bien traités. Ceci dit, on en discutait avec les gens d'EDF récemment, il sera difficile de faire baisser le coût de production en France en dessous de 75 €. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de pays qui, par exemple, quand vous avez un désert, vous mettez 3 km², 10 km² de voltaïque. Comme c'est un désert, il y a tout le temps du soleil. Donc, il y a des produits, des pays dans le monde qui produisent à 40 ou 50 euros du mégawatt-heure. C'est dangereux. Donc, EDF est en train, et on soutient absolument cette approche, de s'occuper de ce qu'on appelle les électro-intensifs et de négocier des contrats avec les électro-intensifs pour essayer de les rapprocher autant qu'on peut de leurs compétiteurs dans le monde. Voilà. En gros, notre stratégie, c'est ça. On est bien conscient de l'enjeu absolument stratégique. Je dirais, surtout, arrêtons les bêtises. Surtout, arrêtons. Vous savez que les parcs éoliens offshore marins sont une folie. Le coût de ça est dément. Les gars vous disent, ah bah ouais, je mets des trucs à 300 mètres ou je sais pas combien au-dessus de l'eau, il y a du vent, etc. Et alors, ils calculent un coût à la sortie de l'éolienne. Mais dis donc, il faut tirer un câble, là.
Mais bien sûr.
Un très long câble. Et en plus, quand j'arrive avec un câble qui arrive à la boule,
je vois même
j'ai pas la consommation d'électricité
à
la boule.
Je vois même pas en quoi c'est écologique, d'ailleurs.
Non, en plus.
Parce que franchement, donc, nous, en tout cas, l'éolien maritime, là, par contre, doit s'arrêter. Parce que ça force RTE à raccorder.
Oui.
Vous savez combien il dépense, RTE, sur 20 ans ?
Non.
200 milliards. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est des sommes colossales qu'il faut arrêter. Parce que le coût du raccordement, le coût du transport, joue aussi dans le coût de l'électricité. Il n'y a pas que le coût de la production, il y a le coût du transport. Donc, voilà.
On a eu la chance d'avoir Loïc Le Floch-Prigent comme invité avant qu'il disparaisse et qu'il nous avait expliqué un petit peu tout ça en long et en large.
C'est le premier qui m'a parlé de la modulation.
Ah bon ?
Loïc m'a pris un jour à part et m'a dit « Fais gaffe, je discute avec mes anciens collaborateurs et le stop and go permanent qu'on est en train de faire est en train d'abîmer nos centrales. » Et c'est peut-être ça qui a causé un certain nombre de sujets qu'on a eu, vous savez, sur les fissures.
Je voulais... Vous vous rendez compte que le temps, il passe à une vitesse.
Je m'amuse bien. Ah oui, mais j'avais dit...
intéressant que...
Bon, une ou deux questions, mais il faut que
je me suis régalé. Oui, réarmer l'agroalimentaire. Parlez-nous ça un petit peu, parce que l'histoire du Mercosur, moi j'ai eu peur qu'on passe à côté, hein. Qu'on soit, je passe... Comment on fait pour... Vous vous rendez compte, ce pays, comme vous le disiez tout à l'heure, ce pays qui était excédentaire en tout et surtout tout ce qui concerne l'alimentaire, l'agroalimentaire, on est déficitaire, ça colle pas.
Alors on a tout un projet qui a été récemment présenté. C'est essentiellement un problème de réglementation. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Le truc qui m'a le plus choqué. Quelle est la protéine animale la plus consommée par les Français ? Le poulet, tout le monde le sait. Avant, on consommait autant de poulet dont on avait besoin. Aujourd'hui, un poulet sur deux en France est importé. Pourquoi ? Une raison toute simple. En Europe, la taille maximale autorisée des élevages de volailles, c'est 80 000. Pourquoi est-ce qu'en France, on a décidé que ce serait 40 000 ? On met nos producteurs de volailles en déséquilibre immédiatement.
Tout de suite.
Et c'est vrai des volailles, c'est vrai aussi de l'élevage.
Et on déséquilibre d'autant plus la situation qu'on est dans un marché ouvert.
Ouais. Exactement, en Europe, encore plus.
Donc on se détruit nous-mêmes dans le système.
Autre sujet vraiment fondamental, l'eau.
Ah oui.
Pourquoi ? Mais je n'arrive même pas à comprendre pourquoi on ennuie les gens avec les bassines. C'est tellement évident qu'il faut faire des bassines. C'est évident, l'eau, elle part à la mer. On la perd.
On la perd.
Donc, ce que disent les gens, c'est de dire, quand les nappes phréatiques sont au plus beau, je prévois la sécheresse, je remonte, je fais ma bassine, et quand les temps chauds arrivent, j'utilise l'eau de ma bassine. Normalement, on devrait avoir un consensus extrêmement fort là-dessus. Oui. Pourquoi là-dedans ? Alors, dans notre projet, les projets de gestion d'eau sont des projets prioritaires.
Je crois même qu'on ne peut pas utiliser sa propre eau de pluie sans autorisation
communale.
J'ai
vu passer quelque chose.
Voilà, monsieur Foucault.
Écoutez, monsieur Danon, je vous remercie de tout ce que vous avez dit. Ça a été clair, ça a été net, ça a été précis.
Oui.
J'espère que nos auditeurs ont compris quelque chose d'important. C'est qu'il y avait un travail de fond qui était effectué. C'est ça le principal. Moi, je me suis régalé à vous écouter parce que je me suis dit, il n'attaque pas la gauche, il n'attaque pas la droite, il n'attaque pas ceci, il n'attaque pas cela. Il s'attaque au véritable problème, c'est-à-dire un programme. Oui. Un programme de travail. Et c'est
pour une fois, on a un coup d'avance.
On a, oui, grâce à vous, okay. On a un coup d'avance. Monsieur
Messieurs,
Danon, je
merci
vous...
beaucoup, c'était un plaisir.
Ah, ben c'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Et je vous dis à très bientôt.
Monsieur.
Et bon courage surtout. Je vais finir avec notre professeur de droit constitutionnel. Monsieur Gohain, le président de la République a... Je voulais vous attaquer un petit peu là-dessus. Le président de la République a prononcé un discours à ce qu'on appelle l'île longue sur la dissuasion nucléaire. Qu'est-ce que vous en... Moi, j'ai... Alors, bien sûr, il y a des gens qui trouvent « Oh, c'est pas mal, c'est ceci, c'est ça. » Moi, je n'ai pas trouvé clair. Et quand le président de la République n'est pas clair, c'est qu'il veut nous cacher quelque chose.
Écoutez, le discours, il est du 2 mars 2026. Il est un discours sur la dissuasion nucléaire avancée.
C'est ça.
Alors, ce qui est un peu gênant toujours, ce sont les adjectifs, car on se demande ce qu'il y a derrière l'adjectif.
Tout à fait.
Et pourquoi on ne s'en tient pas seulement à la dissuasion nucléaire. Et ce qu'il a pu vouloir dire par avancée. Alors, je le cite, « Avec la dissuasion avancée, notre doctrine conservera ses fondations originelles, son caractère strictement défensif. » Le refus de la bataille nucléaire, la rupture totale et assumée entre le conventionnel et le nucléaire. Il en va de même pour l'opportunité, il aurait pu dire l'occasion, d'un avertissement nucléaire unique et non renouvelable. Autrement dit, ça sont les données de base des sciences nucléaires sur lesquelles il revient et auxquelles il revient. Et ça, je trouve que de ce point de vue-là, c'est un discours satisfaisant.
Moi,
de ce point de vue-là, c'est un discours satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'il entend par avancer ?
Et voilà.
Avancer, c'est pas très clair, si j'ai bien compris, quand il s'agit, pour l'essentiel, de venir tenir compte des intérêts nationaux élargis au-delà du territoire national à l'ensemble du continent européen. Bon, ça n'est pas hétérodoxe. Parce que, effectivement, nos intérêts ne s'arrêtent pas au Rhin, mais ils sont aussi, ils intègrent aussi la dimension européenne. En revanche, il ne faut pas que la dissuasion avancée vienne dire que la France assure la défense de l'Europe. Elle assure une défense en Europe, mais pas de l'Europe. Autrement dit, il ne faut pas que nous soyons sur une thématique d'une souveraineté européenne, ce qui est sa thématique à venir protéger par une défense qui serait française, pour protéger aussi cette défense française des États qui ne sont pas la France. Il faut garder la dimension nationale à la dissuasion nucléaire. Et avancer me paraît pas exactement national.
C'était le grand combat du général de Gaulle qui a voulu conserver la dissuasion nucléaire à la main de la France, surtout toute décision, parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe par exemple au Royaume-Uni, où les Américains ont prêté un petit peu de nucléaire, mais les Anglais n'ont pas la maîtrise, ils ne peuvent pas attaquer qui ils veulent, ils ne peuvent pas se défendre contre qui ils veulent, au moment où ils le veulent, etc. C'est ça qui me gêne, moi.
Tout à fait. Par exemple, il est bien connu que le nucléaire britannique est sous double clé depuis les accords de Nassau de 1962. Ça veut dire qu'en réalité, il faut un accord américain pour l'utilisation par le Premier ministre britannique de cette arme. Or, le président de la République parle du Royaume-Uni comme d'une puissance nucléaire indépendante. Pas exactement indépendante. Par exemple, il dit dans son discours au sujet de cette question d'avancement, la France offre la possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de la dissuasion. Mais que viennent faire les partenaires de la France dans des exercices de la dissuasion nationale ? Et quelle est cette participation ? Ça n'est pas clair. Il dit aussi que cela pourra impliquer, au-delà de nos activités strictes, à la participation conventionnelle des forces alliées à nos activités nucléaires. Comment les alliés peuvent-ils participer à nos activités nucléaires ? Ce n'est pas possible.
Non.
Ça n'est pas, et du reste, ça n'est pas souhaitable.
Et
il nous est dit aussi que la France pourra prévoir le déploiement de circonstances d'éléments de forces stratégiques chez nos alliés, c'est-à-dire de mettre nos rafales air ou nos rafales marines sur des bases allemandes ou sur des bases polonaises, ça n'est pas souhaitable non plus, qu'il faut que nous gardions complètement la maîtrise de notre armement nucléaire. Donc voilà, tout ceci, ça veut dire qu'en réalité, le discours reste encore un discours ambigu. C'est ça que je veux dire. C'est un discours qui n'est pas parfaitement clair. C'est mieux qu'avant, mais ce n'est pas encore assez. Or, il ne lui reste plus que 18 mois.
Non seulement ça, il a quand même une habitude à se faire avoir lorsqu'il négocie avec quelqu'un d'autre, à se faire avoir.
Il y avait cet avion du futur, ce système d'avion du futur, mais ça, c'est franco-allemand, il est mort. Les Allemands achètent des F-15, ils n'achètent pas des Rafales. Donc tout ceci montre bien que j'ai l'impression que, on se fait avoir. C'est-à-dire qu'on propose beaucoup, on donne beaucoup et on ne reçoit pas grand-chose.
C'est ça ma crainte.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Qu'est-ce que vous vouliez nous dire de...
Alors vous aviez une inquiétude, je crois, sur la question de l'engagement de la force.
Ah, oui. Moi, je pense qu'une force, quelle qu'elle soit, est là pour défendre les intérêts d'une nation, d'un groupe, et que ça ne se partage pas forcément. Pour le partager, il faut en discuter longtemps, et on n'a pas le temps de discuter quand c'est comme ça.
Ben, en France, c'est particulièrement concentré, puisqu'en réalité, les décisions d'emploi de la force... elle relève du président de la République. En tout cas, pour la force nucléaire, c'est très clair. Les textes sont en ce sens. Nous avons un décret du 14 janvier 1964 qui portait uniquement sur les forces aériennes stratégiques. Et nous avons depuis un décret du 12 juin 1996 qui porte sur l'ensemble des forces nucléaires. Et ce texte, maintenant, il est dans le Code de la Défense qui réunit les textes sur la défense. C'est précisément l'article 14-11-5 du Code. C'est-à-dire que l'ordre d'engagement, il est donné par le président de la République. Il est donné, au chef d'état-major des armées qui met en application cet ordre, c'est-à-dire que le pilote dans son rafale et le commandant du sous-marin nucléaire lanceur d'engins reçoit l'ordre et l'exécute. Soit dans le pré-stratégique, lorsqu'il s'agit d'avions, rafales, air ou marine, soit le stratégique, lorsqu'il s'agit d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et cette décision, elle est une décision... qui ne peut appartenir qu'à un seul homme, qui n'est pas susceptible d'être partagé, qui ne donne pas lieu à des consultations préalables. Ça, c'est le président de la République l'a très clairement réaffirmé dans son discours de l'île longue du 2 mars 2026. Et il n'y a pas de crédibilité de la force de dissuasion à ce que ça soit autrement. Alors maintenant, il y a une autre hypothèse qui est celle de l'envoi de troupes conventionnelles sur des territoires d'opération extérieure.
Oui.
Alors là, pour le coup, c'est moins clair, je dirais, d'abord parce que la Constitution a un dispositif dans son article 35 à ce sujet de contrôle par le Parlement de ses opérations extérieures. Or, le texte constitutionnel nous dit que c'est le gouvernement qui décide. En réalité, c'est pas le gouvernement qui décide, c'est le président de la République qui décide. Si ce n'est que lorsque nous sommes en période de cohabitation, on a vu des incidents de parcours, en particulier au niveau de la Côte d'Ivoire, où le Premier ministre Lionel Jospin s'était opposé à ce que le président Chirac vienne au secours du président ivoirien qui avait été renversé par un coup d'État en 1999. Ce sont des incidents assez peu nombreux et heureusement qui n'ont pas été récurrents.
Qu'est-ce qu'il y a actuellement? Parce que on parlait tout à l'heure de la Constitution. Heureusement qu'on a eu la Constitution de la Ve République qui a résisté à beaucoup de choses, mais elle commence à prendre de l'âge. Peut-être faudrait-il en modifier certains textes, certains articles.
Ah, il y a certainement beaucoup de choses à modifier dans la Constitution et en particulier en faveur d'un élément essentiel qui est ces éléments de démocratie directe. Si vous voulez, la Ve République est un pouvoir, crée un régime qui est très favorable à l'exécutif, bien sûr, mais qui doit permettre au peuple français de retrouver le pouvoir de décider. Or, je rappelle que nous n'avons pas eu de référendum depuis 2005.
Oui.
Le dernier référendum en date portait sur la question de l'autorisation de ratification du traité dit Constitution européenne, rejeté par le peuple français. Et depuis, on est puni. Le peuple est puni et nous sommes en dehors du jeu politique. Et on voit bien qu'il y a quand même une crise de la démocratie indirecte, une crise de la démocratie représentative qui doit être surmontée. Et alors, en particulier, il y a une question que je crois est abordée maintenant par les équipes qui travaillent autour de, en particulier de Bruno Retailleau, qui est celle de surmonter les décisions des cours suprêmes, et particulièrement du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque par ces décisions viennent s'imposer à la France et parfois inversent des législations parlementaire, il est vrai, qui annule ou annihile des législations qui sont nécessaires, particulièrement sur les questions d'immigration, mais sur d'autres questions sociales.
On ferait un référendum. Quelle serait la priorité des priorités ?
On ferait un référendum. On doit, à mon avis, affirmer, réaffirmer la souveraineté nationale. Et si on fait un référendum, on doit permettre par ce référendum d'avoir des mécanismes de démocratie directe, c'est-à-dire des pétitions citoyennes qui permettent de pouvoir proposer des textes et éventuellement d'ailleurs des abrogations de textes qui existent. On peut très bien avoir des réformes abrogatives. Ça existe parfaitement et le système italien ou suisse a beaucoup de dispositifs en ce sens. Actuellement, nous avons quelque chose dans la Constitution, à l'article 11, qui a été modifié en 2008, mais qui est impraticable parce que, tout simplement, il faut une pétition par un nombre de citoyens très considérable, appuyée par des parlementaires, et ceci n'est pas susceptible possible à atteindre.
Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, si c'est qu'une impression, que le Conseil constitutionnel a pris de plus en plus de force en France.
Oui, parce que le Conseil constitutionnel est devenu une véritable juridiction, même si sans doute il pourrait discuter la question de sa composition et également des procédures qui sont suivies devant lui. En particulier, d'ailleurs, on a aujourd'hui une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'il est possible, à l'occasion d'un procès, de venir soulever l'inconstitutionnalité d'une loi qui existe déjà. Donc non seulement la loi peut être contrôlée avant même qu'elle soit promulguée, mais elle peut, et là c'est facultatif, sauf des hypothèses de législation organique par exemple, ou bien alors lorsque même elle est en application. Alors évidemment ça fait du Conseil constitutionnel un protecteur des libertés publiques. Le problème c'est qu'il y a c'est lui qui vient dire quelle est la liberté publique et s'il y a liberté publique. Et par conséquent c'est lui qui a est venu inventer un principe de fraternité qui permet en réalité une pratique d'immigration illégale. Et donc, autrement dit, le Conseil constitutionnel vient imposer des solutions qui ne sont pas forcément celles voulues par le législateur, qui est le représentant de la nation. Donc, il est tout à fait indispensable qu'il existe des mécanismes qui permettent tout simplement de redonner la parole au peuple et que le peuple puisse imposer sa solution contre le juge constitutionnel si nécessaire. Cette réforme, elle doit être faite.
Le problème de la non-représentation d'un référendum aujourd'hui, c'est que tous les présidents de la République, tous les derniers, ont peur de présenter un tel projet parce que les Français répondent plutôt au président de la République, pour ou contre lui, qu'à la question posée.
Je pense que si on a peur, il ne faut pas gouverner.
Absolument.
Je pense que j'appelle au courage politique, ou alors à quoi ça sert. Si c'est pour ne rien faire,
on est
chez soi et on fait autre chose, on est obligé de faire de la politique.
Oui, tout à fait. Mais je suis sûr que c'est ça, en définitive.
Mais ceci étant, je pense que les réformes, des réformes de cette importance, il faut les faire très vite et très tôt dans la foulée de l'élection présidentielle. Ce qu'on ne fait pas dans les premiers mois, on ne le fera jamais. La grande déception que par exemple notre camp a pu avoir, c'est qu'en 95, il ne s'est pas passé grand-chose. Et des réformes qui devaient être faites n'ont pas été faites. Ça a conduit à la catastrophe de l'élection législative de 97 et 5 ans de cohabitation avec les socialistes.
Tout à fait. Ce qu'il faut voir aussi, c'est Il faudrait que les Français, un jour, votent en fonction des programmes et non plus en fonction de l'étiquette politique ou de l'idéologie. Démontrer, parce qu'on s'aperçoit bien, et on vient de le voir dernièrement, que on se déchire, on se scie, et puis au dernier moment, pour conserver des fauteuils, on s'allie, on fait n'importe quoi.
Oui, bien sûr, bah on le voit dans les élections municipales.
Bien sûr.
Donc c'est le régime des partis, ce que disait le général, c'est le régime des partis.
On est revenu au régime des...
C'est-à-dire, effectivement, il s'agit simplement de sauver des sièges, sauver ses places. C'est vrai que la politique ne devrait pas être un métier, c'est-à-dire que là, il faut des conditions, c'est-à-dire des conditions peut-être d'âge, de mandat plus court, de mandat limité dans le temps, des pistes à suivre. Pourquoi est-ce qu'on élit un maire pour 6 ans ? C'est long, 6 ans. Pourquoi peut-il être rééligible indéfiniment ? 6 plus 6, ça fait 12, plus 6, ça fait 18, ça finit par faire beaucoup.
Ça fait beaucoup.
Nul n'est irremplaçable, c'est très préoccupant. Et je dirais qu'en plus, ce que l'on n'a pas fait en 6 ou en 12 ans, il y a peu de chances qu'on le fasse en 18 ou en 24.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je m'étais un petit peu frictionné avec Michel Jobert un jour dans son bureau, qui est Blériot. Lui, il voulait en définitive un mandat, un bonhomme. Président de la République, une fois, c'était 7 ans pour lui. À l'époque, mais pas deux fois. Et je lui ai dit, oui, mais il faut qu'il apprenne son métier. Mais en vieillissant, je me suis aperçu que c'est lui qui avait raison.
Oui, c'est certain. Ceci étant, le fait d'avoir un seul mandat peut affaiblir la personne qui a ce mandat. Parce qu'évidemment, on se dit, on décompte les années. Et voyez ce qui se passe avec le second quinquennat aujourd'hui. Le second quinquennat ne met pas le président de la République en situation de force.
Non, mais là, on a vécu des événements assez exceptionnels dans le sens où... Il n'y avait personne, en fait, contre le candidat Macron. Il n'y avait personne.
Ah, c'est-à-dire que personne. C'est ce qu'il y avait Marine Le Pen. C'est-à-dire que le problème, c'est que...
Ça ne collait pas.
Ça ne collait pas, même si elle a beaucoup progressé.
Oui.
On avait vu que la progression entre le premier et le deuxième tour était généralement assez faible et que, de toute façon, au deuxième tour, on était encore très en dessous.
Oui, oui.
Aujourd'hui, on est... Enfin, en 2022, on était à 10... environ 43, je crois, 44, c'est très en dessous.
Je crains que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Français ont voté contre quelque chose.
Oui, voilà.
Ils votent plus jamais pour. Donc c'est ça qui est...
Oui, mais je suis d'ailleurs pas sûr qu'ils votent seulement pour les questions de programme, où il faut que les programmes soient extrêmement simples. Moi, j'ai entendu ce que disait M. Danon, et c'était fort intéressant, mais vous comprenez bien que c'est extrêmement technique, et qu'il faut résumer ça en très peu de choses et en très peu de mots.
Oui.
Prenons le cas, par exemple, de François Mitterrand, retraite à 60 ans, ça parlait à tout le monde.
Oui, absolument.
Ou semaine de 35 heures, ça parle à tout le monde.
Oui.
Voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a tout un aspect pédagogique qui manque.
Ah oui, parce que la politique, c'est aussi du discours, c'est aussi il faut passer les idées, c'est pas seulement en avoir, il faut les passer.
Il faut
se faire comprendre.
Et il faut surtout se faire comprendre.
Oui.
Ça, c'est un gros problème. Sur la Constitution, sur les problèmes constitutionnels, il y a autre chose à dire d'important ?
Ben écoutez, je pense que... Je ne sais pas si on a encore le temps
Allez-y.
Bon, les choses importantes, je pense que donner la parole au peuple français, ça me paraît être la chose la plus importante.
Ouais,
maintenant, affirmer la souveraineté nationale, c'est exactement la même thématique, c'est-à-dire que le peuple, c'est la nation, nation qui fait peuple, et c'est ça qu'il faut, c'est sur quoi il faut insister. Il faut que la Constitution dise la primauté de la Constitution, il faut que la Constitution dise la primauté de la Constitution sur les traités, et il faut qu'on cesse d'ignorer quelle est la norme suprême dans le droit français. C'est pas possible de continuer comme ça, et ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Maintenant, le reste, c'est une question de mécanique. On a malheureusement, je trouve, un peu trop abîmé la Constitution à l'occasion de la réforme de 2008, où on a notamment supprimé des mécanismes de régulation du système politique. Par exemple, on a limité l'usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, c'est-à-dire l'engagement de responsabilité sur un texte, qui me paraît quelque chose de très important à maintenir. Moi, j'ai surtout un souci aujourd'hui, c'est la question de l'unité de la République. Je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on est en train de faire en matière de collectivité territoriale.
Tout à fait, je suis d'accord.
Je crois que la réforme qu'on engage sur la Nouvelle-Calédonie est une mauvaise réforme.
Tout à fait.
Elle maintient le suffrage restreint, elle crée un état de la Nouvelle-Calédonie, elle transfère des compétences de souveraineté communauté, elle crée une nationalité calédonienne, tout ça va dans le mauvais sens. On risque d'avoir une réforme aussi sur la Corse qui va aussi dans le mauvais sens. Il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas une dissolution ou une dilution de l'État français qui est un État-nation.
Oui.
Et la République, bien sûr.
Une est indivisible.
Oui, alors, justement, puisque vous voulez changer la Constitution, ben, que l'on dise dans la Constitution qu'elle est une, parce qu'on dit qu'elle est indivisible, mais on a oublié de le dire qu'elle est une.
Messieurs, le professeur, je vous remercie.
Je vous en prie.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la France Libre, dirigé par Henri Foucrault, émission préenregistrée le 17 mars 2026 et diffusée pour la première fois mardi 31 mars 2026 de 14h à 15h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.